Bonjour, j'espère que pour les inscriptions et pour les achats, il faudra voir Moussa tout à l'heure, du syllabus. Les choses sont maintenant réglées. Il y a cependant, depuis le moment où ce syllabus a été imprimé, il y a un certain nombre de nouveautés qui ont paru. Et de temps en temps, je me référerai aussi à ces nouveautés. Mais j'aimerais que vous puissiez, d'ici la semaine prochaine, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire attentivement les 20 premières pages du syllabus. C'est un peu ce que j'ai pris rapidement la fois passée. Le premier cours, j'ai essayé de vous donner un peu une panoplie assez large de ce qu'est le juif, pour que vous perceviez que ce n'est pas aussi simple que l'idée que nous nous en faisons, que être juif, c'est une réalité beaucoup plus complexe et qui nous fait réfléchir sur un certain nombre de données de notre propre christianisme. Et puis la semaine passée, j'ai essayé de vous montrer un peu quel est ce qu'on appelle le contentieux, c'est-à-dire le problème des tensions, des difficultés, des oppositions, des persécutions qui ont eu lieu depuis, disons, le premier siècle, mais surtout à partir du IVe siècle, au moment où le christianisme est devenu religion d'État de l'Empire romain, Empire d'Occident et Empire d'Orient. Et comment le territoire d'Israël où il y avait des Juifs est devenu un centre de dispersion à travers tout le milieu de la Méditerranée, à telle enseigne que même à l'époque de Jésus, un citoyen romain sur 10 était juif. Donc il y avait partout, tout autour de la Méditerranée, des comptoirs juifs, de communautés juives, et nous en avons un exemple très clair dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres nous montrent bien que déjà, à l'époque de Jésus, déjà à cette époque, il y avait partout des communautés juives. Et ces communautés juives se situaient sur les villes. Entre ces villes, il y avait tout un réseau de routes romaines qui avaient été la plupart du temps construites par les soldats romains. Et comme vous le savez sans doute, les soldats romains parlaient le grec, la langue de tout le Proche-Orient. Était la langue véhiculaire, comme maintenant l'anglais, c'était le grec. Et donc Pilate et Jésus, hein, s'il y a eu un interrogatoire entre eux, c'est fait dans la langue grecque. Nous n'avons pas toujours cela en tête parce que nos images ne sont pas toujours correctes. Il y a depuis 2003, la date où le syllabus a été rédigé. Il y a un livre que je vous recommande si vous êtes intéressé par tout ce problème de nos relations entre judaïsme et christianisme, un livre remarquable qui a paru. Et c'est le livre de Jean Dujardin. Il n'est pas donc encore noté. Jean Dujardin, L'Église catholique et le peuple juif. Il est paru chez Calmann Lévy, donc qui est une édition juive. Un autre regard, c'est le sous-titre. Il est paru en 2003, justement. Et je me référerai très souvent à cet ouvrage, mais donc c'est une référence qui est nouvelle par rapport au syllabus. Et puis il y a ce livre de Jean-Marie Lustiger, que vous connaissez bien, Il y a évidemment la promesse, que nous y reviendrons à un certain moment, et il y a alors le deuxième volume qui a apparu, qui est l'Alliance. Et dans cette alliance, il y a pas mal de souvenirs et de points intéressants auxquels nous viendrons. C'est aux presses de la Renaissance, et ça a paru en 2010, donc c'est le plus récent. Nous devons toucher aujourd'hui la question de ce qu'on appelle l'antisémitisme chrétien. Il y avait, avant le christianisme, il y avait des problèmes entre juifs et non-juifs. Ces problèmes se situaient souvent sur le plan politique et aussi économique, étant donné justement la situation des juifs dans l'Empire. Donc les juifs venaient d'une diaspora. Il y a eu deux moments de diaspora importants dans l'histoire d'Israël. Le premier, c'est évidemment l'exil. Les Juifs ayant été exilés de Jérusalem, et exilés parce que l'exil était la manière d'agir des envahisseurs, ces envahisseurs étaient les Assyriens, puis les Babyloniens. Et donc l'exil s'est passé à Babylone et à Ninive, donc en Mésopotamie. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui a été évidemment exilé. Étaient exilés les leaders, les fortes têtes, ceux qui pouvaient faire une action dans le peuple, qui avaient une certaine importance politique à l'intérieur du peuple lui-même, et puis tous les artisans qui étaient capables de fabriquer des armes. C'était ces gens-là qu'on mettait dehors. Et comme cela, on calmait la population. Ça, c'était le système utilisé par les Assyriens et les Babyloniens. Mais les Grecs, les Perses ont utilisé un autre système avec Cyrus, ceux qui ont suivi le séminaire sur Isaïe l'an passé, se sont bien rendus compte que, puisque le prophète Isaïe, en tout cas le livre du prophète Isaïe, parle de Cyrus comme d'un serviteur de Dieu, le serviteur, personnage très fluent, qui est à la fois Israël, un prophète d'Israël, et également Cyrus. Pourquoi Cyrus est-il appelé serviteur de Dieu? Parce que son procédé vis-à-vis des territoires envahis était très différent. Il ramenait les gens dans leur foyer s'ils avaient été exilés et il négociait avec eux, ce qui n'était pas du tout le système utilisé par les Assyriens et les Babyloniens qui était tyrannique. Donc un tout autre système, c'est pourquoi ils utilisent dans la pensée des prophètes d'Isaïe, notamment, dans la pensée, ils utilisaient déjà la manière de faire de Dieu, l'ouverture et l'accueil des peuples, même s'ils sont étrangers. Donc ça, c'est la première diaspora. À partir de ce moment, il y a eu bien sûr des Juifs qui ont continué à vivre en Mésopotamie, et notamment dans les régions de Ninive et de Babylone. Il y a eu des colonies, il y a eu des colonies en Égypte, et petit à petit, ces colonies juives ont peuplé tout le pourtour de la Méditerranée. La deuxième dispersion s'est produite après Jésus-Christ, à la fin du 1er siècle, lorsque Jérusalem a été détruite en l'an 70, en 70, par Titus. Donc ça a été le grand mouvement de dispersion dont parlent d'ailleurs déjà les Actes des Apôtres. Dispersion d'abord au nord de la Galilée et dans la Syrie du sud, et puis de nouveau où existaient déjà des comptoirs. Petit à petit, ces communautés juives existant dans la diaspora, dans la dispersion, se sont peuplés, et ont continué de se peupler, avec une grande influence romaine, bien entendu, notamment à Philippe, hein, la ville de Philippe, vous avez vu dans les Actes des Apôtres, hein, qui est une tête de pont, et qui est devenu le lieu de fondation de la première communauté chrétienne en Europe. Donc tout cela, hein, c'est l'histoire que vous trouvez encore dans le Nouveau Testament et notamment dans les Actes des Apôtres. Et précisément, je parle des Actes des Apôtres parce que le père Jean Dujardin commence dans une réflexion historique sur le procédé de la séparation entre judaïsme et christianisme, hein, le processus qui s'est passé à ce moment-là, comment on a fait, c'est un point sur lequel on étudie beaucoup les choses pour le moment, parce qu'on n'est pas encore au clair de la manière dont le passage de la communauté juive à la communauté chrétienne s'est produit. Beaucoup, les processus qui ont été utilisés sont beaucoup plus complexes qu'il n'apparaît. Il n'y a pas eu un moment où il y a eu une séparation tout à fait officielle. Non. Petit à petit, il y avait des courants différents dans le judaïsme. Et plusieurs de ces courants qui existaient dans le judaïsme sont passés aussi dans le christianisme. Le christianisme n'est pas monolithique non plus. Et pendant les trois premiers siècles de notre ère, bien entendu, jusqu'à la conversion de Constantin, l'empereur romain, jusqu'à sa conversion, le judaïsme et le christianisme sont restés très proches l'un de l'autre. Mais le judaïsme avait une certaine supériorité parce qu'il avait été déclaré par les empereurs romains comme religion licite. Il y avait la religion de l'empereur, bien entendu, qui était la religion du gouvernement romain, mais il y avait quelques religions étrangères qui avaient reçu une sorte de légitimité. On pouvait, du moment qu'il n'y ait pas de prosélytisme, on pouvait suivre sa religion. Mais le christianisme, au début, était considéré comme le judaïsme, comme une secte, une partie du judaïsme. Et donc, la plupart du temps, hein, il est resté dans l'ombre du judaïsme. Mais il y a eu des persécutions. Et ces persécutions par les empereurs romains, parce qu'on ne voulait pas, il y avait certains, chrétiens et juifs d'ailleurs, qui ne voulaient pas adorer l'empereur, l'empereur n'était pas une divinité pour eux, et donc ils ont fait obstruction. D'où hein, un certain nombre, depuis Néron et Dèce, etc., Dioclétien évidemment, hein, dont vous avez encore quelques échos dans l'Apocalypse de Saint Jean. Donc pendant ces trois premiers siècles, les chrétiens et les juifs ont vécu de façon assez proche. Et le judaïsme des chrétiens n'était pas encore tout à fait christianisé. Il ne l'a été, il ne l'est devenu véritablement qu'à partir donc du début du IVe siècle, qui a été un grand tournant dans l'histoire. Si nous prenons le livre de Flannery, L'angoisse des Juifs, j'ai essayé de vous montrer que le Juif a une mentalité, une psychologie de persécuté, parce qu'il l'a été à travers toute son expérience, et notamment persécuté par le chrétien. C'est l'idée, c'est l'image qu'il se fait. Et donc il est toujours angoissé. Angoissé parce qu'il va être persécuté et il ne sait pas très bien pourquoi. Et ce n'est que petit à petit que c'est pourquoi se sont en quelque sorte exprimée. Vous avez par exemple ici, dans ce livre de l'histoire de l'antisémitisme, 23 siècles d'antisémitisme, depuis l'antisémitisme païen, les juifs vivaient à part, ils vivaient à part à cause de leur religion, à cause du Dieu unique, dans un monde païen, qui était plutôt polythéiste. Et donc déjà, avant le christianisme, existait une sorte de séparation. Ils vivaient, non pas encore en ghetto, mais ils vivaient généralement à l'intérieur de l'Empire romain, grec et puis romain. Ils vivaient, mais fort entre eux-mêmes. Et ils avaient reçu des licences pour construire une synagogue. Vous avez même dans l'Évangile, chez Saint-Luc, on note que quand l'officier romain vient trouver Jésus pour lui demander de guérir son esclave, il dit, il y a un groupe de juifs qui vient et qui dit à Jésus, parce qu'il ne vient pas lui-même, cet officier romain, il sait très bien qu'il ne peut pas être reçu dans une maison juive, et les gens qui viennent pour parler, pour demander à Jésus, transmettre cette demande de guérison, et ces gens disent à Jésus, il aime le peuple juif. Il nous a même donné une licence pour construire notre synagogue. Donc, synagogue existait bien sûr. Elles existaient sous l'Empire romain, mais il fallait demander licence pour obtenir la construction. Et les communautés juives étaient admises. Mais à partir du IVe siècle, tout a changé. Tout va changer à travers la religion d'État, le christianisme étant devenu 323, on donne cette date généralement, religion d'État. Mais dans au IVe siècle, vous allez avoir de vives altercations et on va commencer à édicter des lois contre les Juifs. Ces lois étaient les lois de l'Empire. Empire d'Occident d'abord, Empire d'Orient ensuite, de Byzance. Et ces lois vont être sanctionnées, notamment dans deux codes importants, le code de Théodose II, tout ça vous l'avez dans les 20 premières pages, Théodose II, et puis le code de Justinien, 4e et puis 5e siècle. Aucun siècle, dit ici l'auteur Flannery, aucun siècle n'a été plus néfaste aux relations judéo-chrétiennes que le 4e. La révolution constantinienne était imminente et on voyait rapidement se cristalliser la forme que l'histoire de l'humanité allait prendre pour tout un millénaire. Et de fait, ce qui s'est passé à ce moment-là a duré pratiquement jusqu'aux croisades. Et les croisades ont repris leur altercation, leur différend avec les Juifs et avec, bien sûr, les Arabes qui avaient envahi tout le Proche-Orient. Les Arabes musulmans, alors. La révolution constantinienne était imminente. Pour l'Église, c'était l'heure du triomphe. L'Église devait... Le christianisme devenait, justement, religion d'État. Puissante, en nombre et en influence, elle s'était élevée au rang d'Église d'État, rôle dans lequel elle exerçait une influence dominante sur la vie politique, sociale et religieuse. C'était un siècle en pleine ébullition. Les œuvres de saint Jérôme, saint Grégoire de Nice, saint Jean Chrysostome, saint Ambroise et saint Augustin virent s'épanouir l'ère patristique dans toute sa gloire. Il faut encore ajouter Eusèbe de Césarée, bien sûr, et Grégoire de Nice et Eusèbe. Les conciles de Nicée et de Constantinople firent reposer sur des bases solides la foi catholique. Et l'Empire se scinda en deux. Ce fut aussi une période de grand péril pour l'Église. Les controverses christologiques faisaient rage, le paganisme jeta ses derniers feux en la personne de Julien dit l'apostat, les barbares du Nord étaient presque aux portes, et fait tout aussi important, le judaïsme toujours indompté défiait les fondations même de l'Église et menaçait de la ruiner de l'intérieur. Cependant, malgré ce défi, l'agonie du judaïsme commençait. Les enseignements rabbiniques avaient quitté la Palestine et créé un nouveau centre en Babylonie. Dans l'Empire même, le judaïsme perdait progressivement du terrain dans sa lutte contre le paganisme. Selon le nouvel empire chrétien, ses privilèges furent en grande partie supprimés. Donc ce qui était licite, ce qui était accepté jusque-là par l'Empire romain, va être progressivement supprimé parce que les empereurs devinrent chrétiens. Son prosélytisme mit hors la loi et en l'an 425, le patriarcat fut aboli. Le patriarcat étant justement le système des académies juives qui existait un peu partout dans le Proche-Orient, notamment en Babylonie, mais également autour de la Méditerranée. Et ce patriarcat fut aboli. Il était considéré un peu comme une sorte d'État dans l'État. Le choix pour le judaïsme était simple. Continuer une rivalité, lutte peu prometteuse et pleine de périls, ou bien se réfugier dans les arcanes du Talmud, se centrer sur l'étude. Mais une étude qui devenait de plus en plus localisée dans des groupes juifs qui continuaient à vivre à part de la société, mais qui se transmettait alors une étude, mais qui était de plus en plus poussée, puisque c'était à ce moment-là que le Talmud se constituait. Nous y reviendrons d'ailleurs. Le rabbinat opta pour la dernière alternative, la considérant comme le prix de la survie. Donc pour survivre, il faut approfondir sa foi. Il faut revenir, si vous voulez, authentiquement à ce qu'on pensait être, ce que le judaïsme pensait être, l'essentiel de sa vie. Ce n'était pas la foi, comme je vous l'ai dit la fois passée, mais davantage la manière de vivre. Toute la vie était sainte. La portée de cette décision fut immense. Elle modela la vie religieuse juive pour des siècles. L'avenir seul dira le prix qu'il en aura coûté. Pour le judaïsme, le IVe siècle fut prélude à une infortune millénaire. Et si vous lisez justement le Père du Jardin, il commence, lui, d'une manière un peu originale, mais fort intéressante, il commence justement par les Actes des Apôtres pour montrer comment ces communautés juives christianisées ou christianisantes se sont peu à peu formées et détachées l'une de l'autre. On dit généralement que c'est dans le synode de Yavne, à la fin du 1er siècle, vers les années 90-92, que la scission s'est faite. Oui, il y a eu certainement des séparations, mais on a continué de vivre la même réalité profonde. Justement, après avoir parlé de l'histoire et du développement de ces communautés juives, le père Jean Dujardin nous montre, il reprend la situation du juif et du païen, et du chrétien. Je vous ai mis dans la deuxième partie du syllabus quelques exemples intéressants de cette période. Vous avez une première partie qui est un peu théorique, et puis à la fin, il y a des textes, la pagination recommence, des textes qui sont intéressants à regarder. Voilà. Je vous ai mis d'abord quelques textes je n'ai parlé la fois passée. D'abord le texte de Nostra Aetate sur la religion juive, puis le sac du temple de Jérusalem pris de la description du saccage du temple de Jérusalem par Flavius Joseph, et puis quelques sentences des pères, c'est-à-dire des premiers pères, des pharisiens qui s'étaient groupés, ce qu'on appelle les membres de la seconde synagogue. Et alors, les courants du judaïsme hellénistique, dont j'ai un peu parlé la fois passée, et alors les paroles de Rabbi Akiba, qui fut un personnage éminent du synode de Yavné, notamment lors de la constitution du canon juif, hein, des 22 livres qui ont été admis dans le canon juif. Et qui est devenu martyr, était martyrisé. Alors quelques textes à la page 7 des documents, document numéro 7. Quelques textes anti-juifs émanant de l'Église, qui datent précisément de cette époque qui a été terrible pour le judaïsme. Et je note ceci, certains pères de l'Église ont à l'égard des juifs des paroles dures, parfois injurieuses, insupportables aujourd'hui. Sans les excuser, on peut les comprendre dans un contexte polémique et souvent avec le souci de mettre les chrétiens en garde contre une influence des communautés juives. On voit bien qu'il y avait du prosélytisme de part et d'autre. Et ce prosélytisme gagnait même jusque dans la construction des synagogues, les synagogues étant souvent beaucoup plus ornées, beaucoup plus spacieuses aussi, que les lieux qui n'étaient pas toujours des églises, des lieux où on célébrait l'Eucharistie. Ce n'est que petit à petit que les églises vont se construire, mais en marge. D'abord, un texte du IIe siècle, dans l'épître à Diognète. À coup sûr, ceux qui s'imaginent rendre à Dieu un culte par le sang, la graisse fumante et les holocaustes, et l'honorer par de telles cérémonies, ne me paraissent en rien différer de ceux que déploie la même libéralité à l'égard d'idoles sourdes qui ne peuvent prendre part à ces honneurs. Vous voyez bien que ça vient de, justement des prophètes, texte d'Isaïe. Donc c'est contre les services du temple. S'imaginer faire des présents à celui qui n'a besoin de rien, quant à leur crainte scrupuleuse concernant la nourriture, et en plus qu'on incrimine le manger cachère, leur superstition au sujet du sabbat, oui, superstition au sujet du sabbat, l'orgueil qu'ils tirent de la circoncision, et la question revient aujourd'hui, parce que il y a un projet d'interdire la circoncision en Europe, et le grand rabbin vient de s'insurger contre cela, c'est pas possible. S'insurger contre la circoncision, c'est détruire l'essence même du peuple juif. La fausse humilité de leurs jeûnes et des néoménies, vous retrouvez là le langage des prophètes, chose ridicule et indigne de mention, je suppose que tu n'as pas besoin que je t'en instruise. Épître à Diognète, deuxième siècle. Troisième siècle, Saint Cyprien. Les Juifs se sont éloignés de Dieu et ont perdu l'indulgence du Seigneur. Ah ! À leur place sont venus les chrétiens méritant Dieu par leur foi. Donc c'est déjà le problème de la substitution. Le peuple juif a terminé son rôle et maintenant c'est l'Église qui a repris, s'est substituée au judaïsme pour reprendre la véritable foi. Les Juifs ne peuvent obtenir le pardon de leurs crimes, ni se laver du sang de Jésus-Christ qu'ils ont fait mourir. Les Juifs fait mourir. Que dans le baptême, en passant à l'Église et en lui obéissant. Donc il va falloir imposer le baptême aux Juifs, et qui vont être récalcitrants, bien entendu. Saint Cyprien, IIIe siècle. Saint Ephrem le Syrien, IVe siècle. C'est symboliquement que Jésus a été crucifié entre des larrons, dont l'un a blasphémé et l'autre l'a confessé. Donc il a été crucifié entre un Juif et un païen devenant chrétien. Figure qui révèle qu'aujourd'hui, le peuple persiste à le mépriser, tandis que les nations, c'est-à-dire les païens, le confessent. Ah. Effectivement, à partir du IVe siècle, les païens se sont convertis et sont entrés en masse dans l'Église. Tandis que les nations le confessent, par le silence, ils réprouvent le mécréant qui les représente, car eux aussi les voilà réprouvés dans le monde, par sa parole il rend hommage aux croyants, et ses partenaires en sont élevés. Et ça c'est dans une hymne sur la Pâque. Et parce qu'ils l'ont en outre frappé avec ce roseau, le calame, le roseau avec lequel on écrit, le calame des rois les a frappés, c'est-à-dire les édits royaux. Les ont frappés. Car les rois ont ordonné par écrit de réduire en esclavage et d'accabler d'impôts ce peuple dont il était écrit qu'il n'entrerait pas dans sa terre. Oui, on va maintenant réutiliser des textes de l'Ancien Testament contre les Juifs. Et qu'étant entrés, une main invisible est descendue pour les frapper. Moi aussi je les ai frappés avec un roseau, puisque mes choix de fixer par écrit le souvenir de leur coup. Encore un passage d'Éphrem, le Syrien. Déchaînés et écumants, ils projettent leur crachat sur le visage du saint, attestant avec fureur qu'il avait essuyé la honte sur le visage des descendants d'Adam, quand le serpent, leur congénère, avait écumé et répandu sur Ève le poison de sa bouche. Le figuier les avait absous et leur avait donné ses feuilles. Mais Sion a dénudé celui qui revêt tous les êtres. Et commence justement ces diatribes contre les Juifs, d'abord en parole. Au concile de Nicée, 4e siècle, donc 325, un texte maintenant du concile. Il serait indigne que nous nous conformions à ce qui concerne cette fête sacrée, la fête de Pâques, à la coutume des Juifs, qui ont souillé leurs mains par les crimes les plus atroces et sont demeurés des aveugles spirituels. Nous ne voulons plus rien avoir de commun avec le peuple juif. Il y a eu saint Augustin. Saint Augustin, avec la Cité de Dieu, parle beaucoup, justement, de ce rapport entre juifs et chrétiens. Et il a des textes qui soufflent parfois le chaud et le froid. Il se rend bien compte que il y a un certain dépassement du judaïsme par le christianisme. Et il se demande pourquoi le judaïsme continue d'exister après le Christ. Puisque le Messie est venu, comment le judaïsme peut-il continuer d'exister? Pourquoi tous ne sont pas devenus chrétiens? Et justement, ça va être un problème important. Ou bien ils ont refusé, et c'est justement d'où vient toute cette littérature contre le judaïsme. Ils ont refusé, ils sont apostats, ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu. Petit à petit, on va forger le mot de déicide. En tout cas, le mot qui revient souvent sous la plume, lorsqu'on parle latin, c'est perfide. Mais perfide, je veux dire celui qui a une autre foi. Il n'a pas la foi authentique, disons. Saint Augustin va imaginer la thèse, peut-être un peu différente, qui est la thèse de l'exemple, l'exemplarité. Israël continue d'être un exemple. Un exemple pour les hommes, païens ou chrétiens, exemple en particulier pour les chrétiens. Exemple de quoi? Exemple parce qu'il y avait de très bons juifs, et des juifs qui croyaient véritablement et qui agissaient selon la Torah, ils croyaient véritablement en Dieu et en Dieu l'unique. Donc là, il ne peut pas le détruire. C'est un fait. Mais en même temps, n'ayant pas reconnu cette présence de Dieu en Jésus, n'ayant pas reconnu leur Messie, ils sont punis, ils continuent d'être un exemple, mais un exemple de punition. Et cette punition consiste justement à être dispersé parmi les nations. Et petit à petit va se forger l'idée du juif errant. Le juif comme Caïn, qui erre par toute la terre, maintenant je vais devenir un errant sur la terre, eh bien, le Caïn et Abel vont être pris comme figure du juif pour Caïn, et du païen, et du chrétien, Abel. Saint Augustin, je cite quelques textes. Ainsi Judas est-il en quelque sorte la personnification des Juifs. Tout n'est pas faux, le mot Juda, le mot juif vient de Juda. Ce sont des gens de la tribu de Juda, des Judéens. Donc est-il en une sorte la personnification des Juifs. Les ennemis du Christ, tant de ceux qui alors haïssaient le Christ que de ceux qui aujourd'hui le haïssent par une sorte de succession dans la même impiété. Commentaire sur les psaumes. de saint Augustin. Dans un sermon sur la catéchèse, il dit ceci. La fin du Seigneur est venue. Ils le tiennent, les Juifs. Ils l'insultent, les Juifs. Ils le ligotent, les Juifs. Ils le couronnent d'épines. Ils le souillent de leur crachat. Ils le flagellent. Ils l'accablent d'outrages. Ils le suspendent au bois. Ils fouillent sa chair de leurs lances. Donc voilà que ce qui était la passion du Christ est devenu la multitude des Juifs. Il y a une identification de la judéité. C'est une lecture un peu tronquée de la passion. Et on a, et pendant des siècles, on a lu la passion de mauvaise façon. Les passions dans les évangiles synoptiques, comme en Saint Jean, se déroulent en trois temps. Le premier, c'est la trahison des disciples. Trahison, reniement et fuite, abandon de Jésus. Mais cela, on l'oublie. On oublie que ce sont ceux-là qui ont commencé par trahir, renier leur maître ou l'abandonner. C'est l'Église, bien entendu. Puis il y a le judaïsme ne le reconnaît pas, et il y a cette parole qui vient dans saint Matthieu, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, qui a été très mal comprise. Le sang, comme le sang de l'agneau pascal, c'est le sang qui purifie. Et dans saint Matthieu, c'est bien de cela qu'il s'agit, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants, c'est-à-dire que nous puissions découvrir dans ce sang de Jésus le chemin de notre libération, de notre rédemption. Mais ça n'a pas été perçu. Les pères de l'Église, certains pères de l'Église le souligneront, mais pas tous. Et donc voilà, on va identifier le procès de Jésus avec le judaïsme entier. Le troisième pôle de la passion, donc la passion commence dans le cercle des disciples, donc l'Église, puis continue dans le cercle juif qui n'a pas reconnu son Messie, et puis, la troisième partie, les païens, évidemment, hein, symbolisés par Pilate, le païen, qui ne reconnaît pas ce roi des Juifs. Donc il y a une lecture tronquée de l'Écriture, qui va commencer justement à se développer. Et comme le note très bien dans plusieurs endroits de la promesse ou bien dans l'Alliance, le père Jean-Marie d'Ustiger, c'est une paganisation, une sorte d'idolâtrie qui intervient, qui pénètre dans l'Église. On attire à soi les choses. Et pour mieux les attirer à soi, on va mépriser l'autre. Et va commencer justement ce que on va appeler avec Jules Isaac, au siècle passé, on va appeler l'enseignement du mépris. Moi-même, dans mon enfance, j'ai été pris dans cette haine des Juifs. Ils ne pensaient pas comme nous, ils avaient tué le Seigneur, c'était comme ça qu'on m'a appris les choses. Et pourtant, les frères des écoles chrétiennes avaient fait aussi des études. Pour les Juifs qui ont fait mourir le Christ, c'est saint Augustin qui dit cela dans la Cité de Dieu. Pour les Juifs qui ont fait mourir le Christ et qui n'ont pas voulu croire en lui, parce qu'il fallait qu'il mourût et qu'il ressuscitât, parce qu'il fallait qu'il mourût et qu'il ressuscitât. Donc il fallait, c'est vrai, hein, c'est un texte qui vient dans les évangiles et dans les actes des apôtres, il fallait. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce « il fallait » Est-ce que c'est une nécessité logique, une nécessité absolue? Ou bien est-ce que, étant donné ce que sont les hommes, c'est ce qui arriverait? entièrement arrachés de leur royaume et dispersés par toute la terre, ils nous sont témoins, voilà, les Juifs témoins, par leurs écritures, que nous n'avons pas inventé les prophéties au sujet du Christ. Nous réutilisons les prophéties contre eux. Dans les psaumes qu'ils lisent tous les jours, il y a cette prophétie, c'est mon Dieu, il me préviendra par sa miséricorde, mon Dieu m'a dit en parlant de mes ennemis, ne les tuez pas, de peur qu'ils n'oublient votre loi. De peur que mon peuple n'oublie, mais dispersez-les par votre puissance. Voilà comment on va maintenant mettre les psaumes, on va jouer avec les psaumes pour plaider contre eux ce qu'ils ont composé eux-mêmes. Donc il fallait faire deux choses. Pour authentifier son christianisme, il fallait le fonder sur le judaïsme, puisque c'était de là qu'il venait. Authentifier le christianisme en le fondant sur le judaïsme. Et puis il fallait disqualifier le juif. Notez qu'on pourrait faire ça pour nous aussi. Les juifs d'ailleurs l'ont fait très souvent au Moyen-Âge, en disant, mais nous lisons dans l'évangile que le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et la première chose qu'ils font, c'est de persécuter le juif. Il faudrait s'entendre. Alors, ou bien il n'est pas le Messie, ou bien les chrétiens ne sont pas chrétiens. Dieu a donc démontré, c'est ici saint Augustin qui continue, Dieu a donc démontré la grâce de sa miséricorde à l'Église en la personne des Juifs, ses ennemis. Peu contourné, hein? Il ne les a pas tués, c'est-à-dire qu'il ne les a pas voués à la mort en tant que Juifs, bien que vaincu et écrasé par les Romains, de peur qu'ayant oublié la loi de Dieu, ils ne puissent même plus servir à témoigner pour nous. Hein? Mais il a ajouté, dispersez-les, car si portant ce témoignage de leurs écritures, ils étaient seulement dans leur pays au lieu d'être dispersés partout, l'Église qui est partout, pourrait-elle les avoir chez tous les peuples, comme témoins des prophéties qui d'avance ont annoncé le Christ? Et c'est une théologie un peu contournée, un peu beaucoup pourrait-on dire. Mais voilà donc ce qu'ils ont forcé à faire comme gymnastique intellectuelle. Alors comment le juif se situe-t-il vis-à-vis du chrétien? Comment le chrétien se situe-t-il vis-à-vis du juif après tout cela? Comment le juif se situe à propos du chrétien? Mais il a voulu s'enlever de ce judaïsme. Comment le juif se situe vis-à-vis du chrétien? Il a voulu s'enlever du christianisme, se préserver du christianisme en se formant davantage par l'étude. Et donc, le judaïsme va, en quelque sorte, s'approfondir lui-même et découvrir son authenticité à travers les Écritures en découvrant qu'il n'a pas besoin de Jésus. Et donc, il va l'éliminer de son étude. Il y a bien sûr dans le Talmud quelques rares attaques contre le christianisme, mais elles sont toujours un peu larvées, elles ne sont pas toujours très claires. Il faut être vraiment entré dans la lecture du Talmud pour le percevoir. Maintenant, comment le chrétien va se situer vis-à-vis du juif? Maintenant, c'est fait. Par toutes les nations ont été dispersés les juifs, témoins de leur iniquité et de notre vérité. Eux, on les livre, d'où il appert que le Christ a été prophétisé. Et nous, nous tenons le Christ. Donc ils ont refusé l'accomplissement. Et donc, ou bien ils sont témoins et ils continuent d'être témoins par leur écriture, par leurs écritures, ou bien ils sont passés au christianisme et là, ils ont trouvé le vrai chemin. Et s'il arrive que quelques païens émettent des doutes, quand nous lui aurons dit cette prophétie, dont l'évidence le frappe de stupeur, et s'il est tenté de les mettre à notre compte, les livres des Juifs sont là pour fournir la preuve de l'antique prédiction. Ainsi, nos ennemis nous servent à confondre d'autres ennemis. Ceux qui ont foulé Jésus aux pieds, Dieu les a voués à l'opprobre. Juifs, ils n'existent plus que pour porter nos livres pour leur propre confusion. Quel opprobre ! Le livre que porte le Juif est le fondement de la foi du chrétien. Ils sont devenus nos porte-livres, à la manière de ces esclaves qui marchent derrière le maître en portant ses livres. Le pédagogue, c'est comme ça qu'on il voit le texte de Paul, la loi a servi de pédagogue pour le Christ. Quel opprobre est le leur, mes frères ! Ils sont devant la Sainte Écriture comme l'aveugle devant un miroir. Lui ne se voit pas et les autres le voient. De cette image de l'église et de la synagogue, que vous trouvez encore, par exemple, à la cathédrale de Strasbourg, l'église avec la croix et la synagogue, une femme voilée et son bâton cassé. Ça, c'était dans les commentaires sur les psaumes. Mais le pire de tous, c'est Jean Chrysostome. Avant Saint-Augustin, il y a eu Saint-Ambroise, qui n'était pas tendre non plus, qui a même collaboré à détruire par le feu une synagogue. Mais Jean Chrysostome, là, c'est vraiment l'apogée. Bandit, perfide, destructeur, débauché, semblable aux cochons, surpassant les bêtes sauvages en férocité, ils immolent leurs enfants au diable pour leur déicide. Pas de pardon possible. Rejetés de Dieu, dispersés en servitude à jamais. Dieu hait les Juifs, il les a toujours haïs. C'est vrai que on peut aussi trouver, pas à innocenter, mais à diminuer la virulence, étant donné la bouche d'or de Saint-Jean Chrysostome, qui exagérait très souvent, de toute manière. Mais c'est quand même tout ça qui a marqué. Et je cite encore deux choses qui me paraissent importantes. Une du 5e siècle, dans le code de Théodose, justement. Superstition abominable, doctrine perverse, secte bestiale et impie, réunion sacrilège, gens au sens obstrué, au nom repoussant et ignoble, qui pollue tout ce qu'il touche. Et le 4e concile de Latran, en 1215, vous voyez que ça a traversé les siècles, sous le pontificat d'Innocent III, qui n'est pas aussi innocent que son nom l'indique, car il a aussi des phrases terribles contre les Juifs. Voici ce qu'il dit comme décret. Les Juifs doivent se distinguer des chrétiens par un habit spécial, un insigne de feutre rouge en France, un cercle jaune, ce qu'on a appelé la rouelle en Allemagne, et que justement les Allemands, les nazis ont repris, et dont ils affublaient les Juifs. Ils portaient la rouelle avec l'étoile juive. Le jour de la Passion, ils devront s'abstenir de paraître en public. Et de fait, ils devaient subir tous les mois, dans leur synagogue, des sermons. Et il y a, dans une bibliothèque à Jérusalem, toute une travée de sermons contre les Juifs qu'ils devaient entendre dans leur synagogue pendant la Semaine Sainte. Les Juifs sont inaptes aux emplois publics. Il leur est interdit de pratiquer l'artisanat et le commerce, mais seulement l'usure interdite aux chrétiens. Les Juifs convertis ne doivent pas retourner à leur ancien rite. En conservant les pratiques du judaïsme, ils troublent par ce mélange la beauté de la religion chrétienne. Encore un autre article, les Juifs seront soumis à la bastonnade pendant la Semaine Sainte. Ils sont interdits de bains publics, sinon les jours réservés aux prostituées. Les maisons juives seront marquées d'un signe distinctif. Et donc ça a commencé le véritable calvaire, donc à partir du IVe siècle. Alors il ne faut pas gommer tout cela. Il y a à en prendre acte. Nous verrons maintenant, hein, nous verrons un peu plus tard, comment justement nous pouvons faire aujourd'hui. Et pourquoi, si nous voulons obéir au Concile Vatican II, pourquoi nous devons changer absolument notre manière de voir les choses. Mais le chrétien, face à tout cela, qu'est-ce qu'il a pu apprendre? Il apprenait la charité et aimez-vous les uns les autres comme vous êtes. Comme Dieu, comme je vous ai aimé, ils apprenaient cela, et en même temps, ils apprenaient la haine. C'est tout un chemin que nous avons dû encore en grande partie fournir dans notre enfance, et dans notre adolescence, certainement. Parce qu'il faut bien nous dire que jusqu'à la fin de mes études secondaires, nous ne pouvions pas lire la Bible, l'Ancien Testament. Interdit. C'est vrai qu'il était interdit lorsqu'il n'y avait pas de notes. Au début, il n'y avait que le texte de la Bible. Et puis petit à petit, on a commencé justement pour permettre aux chrétiens de le lire, de donner des notes explicatives. La Bible, la première Bible qui existait à cette époque-là, c'était la Bible, en français en tout cas, c'était la Bible de Crampon. Et donc, nous avons dû aussi changer notre mentalité. Mais, comme le dit encore le Père Jean-Marie Lustiger, il est interrogé par un journaliste juif. Il ne vous a pas semblé que vous pouviez servir à l'intérieur du judaïsme? Pourquoi il s'est converti? Le judaïsme n'avait alors pour moi pas d'autre contenu que celui que je découvrais dans le christianisme. Il a dû faire lui aussi tout le chemin. Le judaïsme pour moi à l'époque, car le judaïsme avait été en grande partie assimilé dans nos régions. Le judaïsme, pour moi, à l'époque, était une conduite historique persécutée, qu'il n'était pas question un instant de quitter, mais qui ne trouvait son achèvement et ne trouvait sa signification que dans l'accueil et la reconnaissance de la figure de Jésus, Messie d'Israël. Il avait été touché par cela, malgré, justement, tout ce qu'il entendait et la manière dont on le traitait en classe de sale juif. Et il, justement celui qui l'interroge, « Je crois vous avoir dit que pendant la guerre, j'étais moi-même caché chez un prêtre. Je ne vous dirai pas son nom, parce qu'il doit être toujours en vie. J'ai servi la messe chez lui pendant 3 mois. C'était dans le sud de la France. J'avais 15 ans à l'époque, j'étais caché chez lui, il a sauvé beaucoup d'enfants. Il n'a pas essayé de nous convertir, pas du tout, mais il a essayé de nous dire, « Tu vois mon enfant, tu es persécuté parce que ton peuple n'a pas reconnu le Messie. N'est-ce pas la doctrine chrétienne ? Réponse de Jean-Marie Lustiger. Cela a été dit. Cela a été l'une des thématisations du sort d'Israël dans les pays chrétiens. C'est sûr. Mais je n'y ai jamais adhéré. Le Vatican ne vous en voudra-t-il pas d'avoir dit cela dans une interview ? De vous avoir dit quoi ? Mais que la phrase « les Juifs sont persécutés parce qu'ils ont refusé Jésus » n'est pas une espèce de credo ? Non. Cela ne fait pas partie de la foi catholique. Donc, si un prêtre m'a dit cela, c'était son interprétation à lui. C'était son interprétation à lui. Interprétation reçue, répandue, mais qui ne fait pas partie de la foi. En vous disant que je n'admets pas cette opinion, je ne suis donc pas suspect de professer une opinion déviante. Ce que vous dites ne va-t-il pas contre les idées reçues ? Ah ! Ce que je dis surprendra sans doute les gens qui s'en tiennent aux idées reçues, aux préjugés. Car la réflexion chrétienne sur le sort d'Israël, sur la condition juive, sur la place du judaïsme dans l'histoire du salut, en est encore à ses débuts dans l'époque moderne. Mais vous devriez tout de même nous dire, écoutez, si vous voulez être de bons juifs, si vous voulez vraiment le salut, vous devez devenir chrétien. Vous ne le dites pas. Et je ne vous incite pas à le dire. Mais enfin, je crois que ce serait logique. Pas nécessairement. Et pour la raison suivante, il n'appartient pas à l'homme de décider ce qu'il doit être, mais d'abord à Dieu. C'est à Dieu de décider ce que je dois être et ce que je dois faire. À Dieu d'abord, à moi ensuite. D'autre part, votre question renvoie à un problème plus fondamental, et je reviendrai ensuite à la question telle que vous l'avez posée. Un problème que j'aborde sur la pointe des pieds, en tremblant. Qu'est-ce que cela signifie être juif aujourd'hui ? Comment faut-il être juif pour être fidèle au judaïsme ? Cela ne me paraît pas si évident. De même, il n'est pas évident d'être chrétien. Il y a différentes façons de l'être. Il me semble que la condition diasporique, de la diaspora actuelle, est devenue très différente de la condition diasporique antécédente à la ruine du Temple. Le judaïsme a fait une expérience spirituelle singulière. Il a eu, tout au long de 2 millénaires, une expérience spirituelle singulière, celle du rabbinisme. Celui-ci a permis une chose fantastique, la sauvegarde de l'identité juive. Il a fait pour cela des choix particuliers, mais il a beaucoup d'autres aspirations, d'autres questions, d'autres courants intérieurs au judaïsme qui n'ont pas été identifiés ni reconnus par la majorité officielle. De plus, depuis l'avènement de la modernité, depuis le XVIIIe siècle, depuis le début de l'émancipation, sont nés des problèmes nouveaux. Le problème de l'identité juive n'est pas seulement celui de l'identité juive au point de vue juridique, mais celui de la fidélité juive. Cette question ne m'est pas indifférente. Elle n'est pas indifférente à la question que vous me posez, car le contentieux historique entre le judaïsme et le christianisme est un contentieux bilatéral. Comment le judaïsme lui-même se situe-t-il par rapport à ses propres affirmations et à sa propre tradition ? Comment les milieux chrétiens, disons plutôt les milieux de culture chrétienne, identifient-ils et reconnaissent-ils le patrimoine propre du judaïsme dans sa richesse et sa diversité présente? le rapport entre judaïsme et christianisme est, dans la théologie chrétienne moderne, une question encore à peine abordée. Toutes les données du problème sont là. Elles sont posées, et parfois de façon très profonde. Mais l'histoire a fait que cette question a été jusqu'ici laissée de côté, occultée. Notamment la question de la naissance du christianisme, de son rapport au judaïsme et de la réaction du judaïsme à son égard. Quand le Nouveau Testament fut écrit, les positions étaient déjà en partie fixées, mais en partie seulement. La divergence s'est aggravée ensuite. La question est d'abord celle du rapport entre Israël et les nations. Il y a là un premier point capital. La révélation faite à Israël est aussi pour les nations. Il y a dans la tradition la succession des alliances, l'alliance noachique, etc. Or, précisément, l'alliance noachique est-elle la seule qui soit offerte aux nations? N'y a-t-il pas dans les prophètes d'autres réponses? L'alliance noachique, c'est déjà beaucoup, c'est déjà tout, puisque cela représente la droiture morale. Mais les nations n'étaient-elles pas appelées à recevoir quelque chose du judaïsme? Que dit la tradition de la promesse faite à Abraham? Qu'en est-il de la révélation du Sinaï? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir comment le judaïsme se situe-t-il en lui-même et comment, se situant en lui-même, il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas encore perçu dans le christianisme. Et par ailleurs, le christianisme a probablement encore besoin, et beaucoup plus que nous ne le pensons, du judaïsme qui continue de vivre. Mais nous verrons cela progressivement. La fois prochaine, nous verrons le chapitre sur les écritures juives.